Network. Lancement mercredi dernier à Goma du centre conjoint des fusions des renseignements par 12 États membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Par cette initiative, ces États s'engagent à mettre définitivement un terme aux forces et groupes armés qui déstabilisent la région, à lutter contre le terrorisme et l'exploitation illégale des ressources naturelles. Dans son rapport publié mardi dernier, l'ONG des défenses des droits de l'homme, Amnesty International, plaide pour le renforcement de l'embargo sur les armes à destination de la RDC. Tels sont les thèmes que vous propose Tribune de la Presse de ce soir. Trois confrères journalistes participent à ce débat. Il s'agit d'Innocent Kaboukala. Il est coordonnateur de Global Télévision. C'est une télévision qui émet depuis Kinshasa. Bonsoir, Innocent Kaboukala.
Bonsoir, bonsoir aux auditeurs de Radio Capi.
Israël Moutala, il est journaliste à Géopolis, c'est un magazine économique des activités extractives. Bonsoir Israël Moutala.
Bonsoir Guy, bonsoir aux auditeurs.
Et Joseph Mankamba, il est directeur de programme de la radio-télévision Malangi à Kananga au Kasaï Occidental. Bonsoir Joseph Mankamba.
Bonsoir Guy, bonsoir à tous les auditeurs des radios Kasaï.
Soyez le bienvenu dans cette émission. Lancement par la sous-région des Grands Lacs du centre conjoint de fusion des renseignements en vue de lutter contre les forces négatives. Amnesty International plaide pour le renforcement de l'embargo sur les armes à destination de la RDC. Pour savoir comment la presse a traité ces différentes informations, on écoute cette revue de presse que nous présente Samuel Kachak.
Bonsoir. Depuis le 13 juin 2012 à Goma, lancement du centre conjoint de fusion des renseignements des 12 États des Grands Lacs, titre l'Observateur. Le journal renseigne que cette initiative est lancée dans le but de traquer les forces négatives qui écument la région des Grands Lacs depuis des décennies. Il s'agit des FDLR, l'ADF Nalu, le FNL et la LRA, ainsi que d'autres mouvements rebelles des États voisins incrustés en territoire congolais. Toujours dans le chapitre sécuritaire de l'Est, le potentiel mentionne que l'insécurité dans l'Est tire ses origines du Rwanda car le voile est désormais tombé. Selon ce journal, la mutinerie en cours dans l'Est de la RDC reçoit des appuis en hommes et en logistique du Rwanda dans une passivité déconcertante de la communauté internationale. Au plan économique, le lancement dans les tout prochains jours des nouvelles coupures monétaires en RDC a retenu aussi l'attention des journaux parus cette semaine à Kinshasa. Dans exactement 18 jours, rappelle le potentiel, la RDC élargirait son éventail fiduciaire par l'émission de 3 nouvelles coupures de francs congolais. Il s'agit de 1000, 5000 et 10 000 francs congolais. Pessimiste, la population est hantée par l'inflation mais aussi par le spectre de l'éclatement de la RDC en zone monétaire. Comme autre sujet, dans un rapport publié mardi dernier, l'ONG des défenses des droits de l'homme Amnesty International a plaidé pour le renforcement de l'embargo sur les armes à destination de la RDC. Dans ce rapport, l'ONG a démontré comment la facilité de l'approvisionnement des armes alimente les conflits en RDC. En réaction, le gouvernement congolais s'est dit choqué et déçu par ce rapport.
Merci Samuel Kachak, Innocent Kaboukala. Vous êtes coordonnateur de Global Télévision. C'est une télévision qui émet depuis Kinshasa. L'autre actualité, c'est aussi ces réquisitoires du procureur de la CPI dans l'affaire qui l'oppose à Thomas Lubanga. 30 ans d'emprisonnement ferme sont requis par Moreno contre Thomas Lubanga.
Par rapport au crime, hein, en fait, les charges qui ont été retenues contre la personne de Thomas Lubanga, je pense que ça vaut la peine parce qu'il faut quand même être dur dans une certaine mesure pour espérer trouver des résultats qu'il faut, surtout quand on sait que notre pays souffre quand même de beaucoup de guerres sur son sol et que les Congolais n'ont jamais connu la paix depuis plus de d'une décennie. Et donc il faut vraiment qu'il y ait des mesures du genre. Et cela pourra décourager des gens à pouvoir s'adonner à ce genre de pratiques. Moi, je crois que ça me satisfait.
Israël Moutala, journaliste à Géopolis, un magazine économique des activités extractives. L'autre actualité, c'est l'ASADO, l'Association africaine de défense des droits humains, qui se félicite de l'engagement du gouvernement congolais à sanctionner les auteurs des violations des droits de l'homme survenues après les élections de novembre 2011.
Bon, il faut féliciter tout engagement ou ou tout acte du gouvernement qui vise à réprimer les violations massives des droits de l'homme. Cela est souhaitable. Mais pour que cela soit effectif, il faudrait que le travail de l'indépendance de la justice, le travail de la dotation de tous les instruments qui œuvrent à faire respecter la loi aille de pair. Si le travail de l'indépendance de la justice et de la mise de moyens à cet instrument ne se fait pas, ça ne fera que des déclarations d'intention. Donc moi j'aimerais que le gouvernement puisse approfondir le travail de l'autonomisation de notre justice en termes de moyens, en termes de textes, en termes d'hommes. C'est à ce prix-là que nous verrons réellement que les droits humains sont respectés dans le pays.
Joseph Mankamba, directeur des programmes de la radio-télévision Malanji à Kananga au Kasaï occidental. L'actualité à Kananga est dominée par quoi? Nous savons que depuis une semaine, le gouverneur Kabasu Babu a été déçu par une motion de censure. Il y a même un débat. Hein, les uns disent que c'est tout le gouvernement qui doit tomber. Les autres, par contre, pensent qu'il n'y a que le gouverneur qui doit être frappé. Et c'est pas ça qui domine l'actualité à Kananga.
Oui, Guy, c'est presque ça. C'est qu'on peut dire qu'actuellement, la vie est en train de reprendre dans les institutions provinciales. Au niveau du gouvernement provincial, le constat est tel que c'est le gouverneur qui est effectivement tombé jusque-là, parce que son équipe est là. C'est d'ailleurs son ministre de l'Intérieur qui est gouverneur intérimaire depuis le week-end de la semaine passée. Depuis le début de cette semaine, il a commencé les activités. Présentement même, il est sur terrain, donc pour dire que la vie est en train de reprendre au niveau du gouvernement provincial et à l'Assemblée provinciale aussi. Donc, on a convoqué une première plénière après celle du mercredi ou de la semaine passée. On a déchu le gouverneur. Une autre plénière a été tenue ce vendredi. Donc, c'est pour dire que si on peut parler d'actualité à Kananga, c'est cette reprise de vie au sein des institutions provinciales qui essaie un peu de remettre la population en confiance quant à la relance de la province du Kasaï occidental dans le concert des provinces.
Merci. Notre premier thème de ce soir, lancement mercredi dernier à Goma du Centre conjoint de fusion des renseignements par 12 États membres de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Par cette initiative, ces États s'engagent à mettre définitivement un terme aux forces de groupes armés qui déstabilisent la région, à lutter contre le terrorisme et l'exploitation illégale des ressources naturelles. C'est l'objectif que se sont assignés les délégués de ces États mercredi dernier à Goma. C'était à l'occasion du lancement officiel des activités du Centre conjoint des fusions des renseignements. Celui-ci va permettre de collecter les renseignements sur les groupes armés, les forces négatives et lutter contre le terrorisme et l'exploitation illégale des ressources naturelles. Ainsi donc, tous les pays de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs vont mettre ensemble leurs actions de renseignement et stratégies communes pour atteindre ces objectifs. Les chefs des services de renseignement, les représentants militaires ainsi que les autorités étaient présent à cette cérémonie. Suivons ces reportages de Denise Doukesso.
L'existence de groupes armés et forces négatives dont le Hutu rwandais FDLR, les rebelles ougandais ADF Nalu et LRA ainsi que les FNL du Burundi constitue une menace et un obstacle pour la paix et la sécurité pour la région de Grand Lac, mais également un frein pour le développement de la région, a déclaré le secrétaire exécutif de la CRGL. C'est ainsi qu'il faut les éradiquer. Ce centre sera donc un instrument qui va permettre de collecter les renseignements sur ces groupes, les analyser et les mettre ensemble afin de lutter efficacement contre ces forces négatives qui équiment la région des Grands Lacs. Professeur Toumba Luaba.
Le centre va servir à assurer la traçabilité des groupes armés, leur dynamique, à savoir comment ces groupes se forment, comment les groupes recrutent les gens, comment ils se ravitaillent, comment ils se déploient à travers toute la région des Grands Lacs.
Pour le ministre congolais de l'Intérieur et Sécurité, cet événement est un point de départ de la nouvelle ère pour la région de Grand Lac, notamment pour la RDC qui est à la recherche de la paix et de la stabilité. Goma, Denis Luque sur Radio Kapi.
Innocent Kabukala, la région des Grands Lacs qui connaît une panoplie de problèmes, notamment sur le plan sécuritaire, décide de créer une synergie pour faire face à tous ces problèmes. Comment vous analysez cette initiative?
Déjà, il faut dire que c'est une très bonne chose, dans la mesure où, lorsque les parties qui sont impliquées dans ce conflit à la partie Est se décident de prendre le problème à bras le corps et d'y trouver des solutions, Donc on ne peut que saluer. Mais cependant, il faut quand même dire certaines choses. C'est est-ce que le fait de vouloir se mettre ensemble, on a pu négliger des aspects du genre hypocrisie? Parce que lorsqu'on suit cette question de l'Est, depuis qu'il y a eu ces problèmes, on s'entraccuse. Kinshasa accuse, par exemple, pour le cas, parce que ce sont les deux pays qui sont le plus concernés. Bien sûr qu'il y a d'autres qui viennent en appui. Les allégations de Kinshasa sont rejetées au niveau de Kigali, de même que Kigali rejette les allégations de Kinshasa quant, par exemple, à alimenter ces groupes-là qui sont en train de s'aimer la terreur, la mort, la désolation parmi les Congolais, parce que dans tout ça, il n'y a que le Congo qui souffre, parce qu'on ne parle pas de ces genres de situations au Rwanda. Tout ça, c'est sous le dos des Congolais. Alors, est-ce que on a aussi pris des dispositions pour qu'il n'y ait pas des éléments de suspicion? Nous venons de suivre le professeur Tomoloba, qui dit que parmi les missions assignées à ce centre, c'est d'abord, c'est aussi savoir comment on recrute dans les rangs des forces négatives. Ben, est-ce qu'on a eu, on a les instruments, on a des éléments qui soient à mesure de fournir les vraies informations pour que rien ne puisse échapper? Il ne faudrait pas que ce soit un centre pour rien. On se souvient de l'histoire de cette communauté, la CPGL. On connaît comment ça fonctionne. Parmi les objectifs au départ, c'était aussi, en fait, ce genre de problème. Au-delà du fait qu'on avait besoin
de promouvoir
la paix, les aspects économiques étaient aussi mis en jeu, effectivement, à l'époque. Ouais. Mais parmi les éléments, il y avait cette volonté de toujours voir cette frontière-là sécurisée et que la circulation des personnes et de leurs biens soit vraiment libre et qu'il n'y ait pas d'inquiétude. Mais où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Pourquoi il faut aller alors créer un autre centre? C'est que quelque part, l'objectif de cette communauté, de ce bureau qui existe là, n'avait pas trouvé des éléments capables de pouvoir asseoir ce que l'on recherchait, la paix notamment.
N'est-ce pas une façon de corriger ce qui n'a pas marché au sein de la CPGL?
Ben, si c'est le cas, c'est une bonne chose, parce qu'en fait, il faut dire que dans la marche de chaque chose, il faut toujours arriver à se remettre en cause si on n'a pas atteint les objectifs. Donc c'est une bonne chose, mais on espère. Mais moi, c'est que je voudrais insister sur l'aspect de la franche collaboration entre les États qui sont engagés. Et ici, principalement le Rwanda et la République démocratique du Congo.
Il y a des experts qui ont dit que certainement que certains préalables ont été accomplis, notamment dissiper la méfiance entre les deux États.
Oui, alors c'est cette méfiance-là justement. Pourquoi on se méfie? Parce qu'il y a des choses qu'on ne dit pas aussi. Alors, on espère que lorsqu'ils vont se rencontrer, ce sera sûrement à huis clos, parce que pour l'instant, on ne connaît pas grand-chose sur ça.
Israël Muntala, c'est une initiative qui naît dans un contexte international, caractérisé par des crises multiformes et qui pousse les États à mettre ensemble leurs efforts afin de tenir les coups. Peut-on dire que cette initiative s'inscrit dans cette logique qui voudrait que les États se mettent ensemble pour combattre des éléments transfrontaliers qui déstabilise leur pays?
La Bible dit que deux êtres humains ne peuvent pas marcher ensemble s'ils n'ont pas la même vision. Moi, je pense qu'ici, il est clair qu'entre la RDC et le Rwanda, il y a une disparité de vision. Et de ce point de vue-là, ces deux États ne peuvent pas se mettre ensemble. Il y a d'une part le Rwanda qui estime que le leadership régional lui revient, parce que c'est un État fort.
Et vous pensez qu'il est impossible que ces deux États mettent en place une sorte de synergie? Il est impossible.
Il y a d'abord des structures qui existent. CIRGL, la Conférence internationale des pays des Grands Lacs et tout ça. Il y a plusieurs organisations sous-régionales, mais qui végètent. Parce que dans les relations qui caractérisent la RDC et le Rwanda, il y a beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de mauvaise foi de la part du Rwanda. Donc le Rwanda est dans sa tête, dans une posture hégémonique. Tant qu'on n'ôtera pas la posture hégémonique de la tête des dirigeants actuels rwandais, rien ne va. Ça sera un énième accord de dupes. C'est ça le problème.
Et si ces facteurs-là, ce que vous appelez hypocrisie, continuent à persister, pourquoi les 12 pays ont accepté, en dépit de cela, de mettre en place ces centres conjoints de fusion, de renseignement?
Ils vont se mettre d'accord, mais chacun va donner des informations à l'autre non stratégique. Ça sera une structure budgétivore, parce que le renseignement, c'est quelque chose de vital. Le renseignement, c'est on ne badine pas avec les renseignements. Qui a les renseignements a le pouvoir. Les renseignements, ça précède les actions militaires. Une action militaire, pour être bien menée, elle doit être bien pensée, et donc pour être bien pensée, il faut qu'il y ait des informations, des renseignements stratégiques qui soient mis à l'étude pour savoir quelle est la meilleure tactique et quelle meilleure arme. Les renseignements, c'est crucial. Et moi, je vois mal le Rwanda partager des informations aussi stratégiques à la RDC. Notre problème aussi,
mais c'est possible.
Non, je vous dis d'abord, dans le conflit qui oppose aujourd'hui le Rwanda à la RDC sur le M23, sur la rébellion qui a éclaté, donc le Rwanda n'a même pas daigné justement autoriser le gouvernement et la commission mixte qui existe entre deux pays d'aller vérifier les informations que le Rwanda a fournies sur cette question. Et donc, moi je dis ceci, le problème est d'abord la question de bonne foi. Donc, dans cette structure, les chefs d'état-major vont se rencontrer, les chefs de renseignement vont se rencontrer, ils vont bidonner de faux rapports, de faux renseignements, ou bien de renseignements qui n'ont pas beaucoup de valeur. Mais là, ça repose le problème. Parce que moi, j'ai toujours dit ici, le problème n'est pas la force du Rwanda. Le problème, c'est notre faiblesse à nous. Si nous avons des services de sécurité performants, nous n'aurons pas besoin de recourir aux renseignements rwandais. Nous allons nous-mêmes former des gens capables.
Il n'y a pas que le Rwanda, il y a l'Angola, il y a le Burundi, il y a l'Ouganda, c'est 12 pays.
Je sais, mais le problème de renseignement, le problème de sécurité ne se pose pas avec la même acuité du côté de la frontière rwandaise que du côté de la frontière angolaise. Faisons la part de choses. Le problème de la sécurité ne se pose pas avec autant d'acuité du côté de la République centrafricaine qu'avec le Rwanda. Le point focal des crises à répétition dans l'Est, dans notre pays, c'est le Rwanda. Donc, dès qu'on aura maîtrisé ce côté-là, je pense qu'on pourra résoudre la question de la paix.
Joseph Mankamba, certains experts estiment que pour que les États acceptent de mettre en place cette synergie, il faut qu'il y ait une identité d'intérêt. Et pour ce qui est de la sous-région des Grands Lacs, au vu de tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est dit, pensez-vous qu'il y a convergence d'intérêts?
C'est ça la question qu'il faut d'abord se poser. Ce qui est vrai que la structure telle qu'elle est mise en place, c'est une bonne synergie, comme on l'a dit, ça va constituer vraiment un cadre de diagnostic sur les véritables sources de ces groupes qui sont en train de créer de l'insécurité dans les pays des régions, des sous-régions des Grands Lacs. Mais le plus grand problème, c'est celui-là. Il y a certains préalables dont il fallait d'abord tenir compte avant qu'on arrive à cette structure. Il y a un problème d'identité, d'intérêt, comme on est en train de dire. Mais on se réalise qu'au sein de cette région ou sous-région, il y a une division vraiment dispersée. On ne sait pas se mettre d'accord sur ce qu'on doit concrètement faire. Parce que si on avait déjà une même identité d'intérêt, si on avait les mêmes intérêts, la même vision, il n'y aurait pas d'accusation aujourd'hui entre la RDC et le Rwanda. Mais quand les pays d'une même structure continuent à s'entraciser, c'est déjà un problème. Donc il avait fallu d'abord se rassurer de la confiance entre les États membres de cette organisation régionale, avant de passer à mettre sur pied une structure qui va vraiment constituer les poumons de la sécurité pour la région. C'est pas facile qu'on puisse se mettre directement à travailler, à se livrer des secrets tant qu'on n'a pas confiance des uns aux autres.
Et vous pensez que la question de la confiance mutuelle n'a pas été relevée avant qu'on envisageât de mettre en place ces centres conjoints de renseignement?
Non, mais là il y a un problème, Guy, parce qu'on sait que jusqu'aujourd'hui, entre les pays, on continue à croire que tel ou tel autre groupe est parrainé par tel ou tel autre pays. Donc on n'a pas confiance. Ça ne pouvait très bien marcher que si tout le monde était convaincu que les FDLR, l'ENRA et les autres étaient des électrons libres qui n'appartenaient à aucune nation. Là, chacune des nations allait se livrer à combattre ces mouvements. Mais tant que les uns considèrent que c'est elles qui soutiennent tel mouvement, c'est déjà un problème de méfiance. Et je doute fort qu'on puisse délivrer des renseignements sérieux pour démanteler ces différents groupes armés.
Inosso Kabukala, à partir du moment où les groupes armés comme les FDLR, les ADF Nalu, les FNL, la LRA, ainsi que toutes ces factions Maïmaï qui sévissent au Congo, à partir du moment où ces groupes-là menacent tous les pays de l'Est, en fait, la plupart des pays de l'Est, les Rwanda, l'Ouganda, la République centrafricaine, les Soudan du Sud, la RDC, et à partir du moment où cette menace est réelle, n'est-il pas logique que ces pays se mettent ensemble pour faire face à ces problèmes qui les concernent tous?
Oui, vous savez, si, nous ne sommes pas opposés à cette logique-là. C'est clair, tel que vous posez la question. Mais il y a un pessimisme qui pèse, c'est que les uns et les autres Est-ce que se font-ils confiance? D'abord, il faut identifier aussi le vrai problème. Est-ce que le Sud-Soudan est-il réellement menacé dans ce conflit-là? Pourquoi? Parce que est-ce que cette guerre-là a commencé au Soudan? Non. On ne voit pas. Le Soudan, on sent que c'est le problème entre
la LRA.
Dans une moindre mesure.
Voilà.
Dans une moindre mesure. Mais le grand problème, c'est FDLR et les autres, c'est par rapport à la RDC et le Rwanda. Kagame,
il ne faut pas minimiser la menace ADF Nalu, hein. Il ne faut pas minimiser la menace.
On ne minimise rien, mais on a quand même une petite bonne expérience depuis que la question de l'Est se pose dans notre pays ici. Le Rwanda cherche réellement à préserver le régime qui est là. Tout le monde sait que c'est un régime qui n'est pas démocratique.
C'est votre point de vue.
C'est mon point de vue, ça m'engage. C'est un régime qui n'est pas démocratique. Et à partir du moment, Israël le disait ici, l'hégémonie rwandaise voudrait que qu'on ne puisse pas avoir un seul instant un sentiment d'insécurité à l'intérieur du Rwanda. À partir de cet instant, le Rwanda se bat. Voilà pourquoi d'ailleurs, avant même qu'on en arrive à ce centre qui vient d'être mis en place, le Rwanda s'était proposé de jouer à la médiation. Et puisque cette guerre est toujours au Congo, c'est le Congo parce qu'on sait aussi, Israël le disait aussi quelque part, notre problème de la faiblesse en tant que tel pays. Parce que si c'était que la RDC pouvait attaquer le Rwanda, je crois que peut-être on aurait trouvé la solution le plus rapidement possible. Parce qu'on sait quand même que la RDC est un pays très important, déjà du point de vue de sa grandeur. Bon, on imagine que si ce pays devait envahir le Rwanda, c'est tout de suite que cette histoire-là va se terminer. Alors, puisqu'il faut préserver quand même ce Rwanda-là, avec une petite intention de l'élargir dans une des parties de notre pays, alors il faut tout de suite arrêter cela, parce qu'il y a quand même une inquiétude qu'on ne dit pas. L'inquiétude, c'est que aujourd'hui, c'est Bosco Ntaganda qui est traqué au niveau de la CPI. Et que Bosco Ntaganda se retranché dans ces montagnes-là. Et tout le monde fait semblant qu'on ne peut pas le retrouver. Et pourtant, il est possible parce qu'à partir d'un certain nombre de mécanismes, je crois que le Rwanda serait capable de faire tout ça. Mais tout ce qu'on recherche, c'est qu'il faut à tout prix qu'au Rwanda, que la sécurité soit ressentie. Et il faut alors maintenir ce foyer-là. Et puisqu'il faut le maintenir, il faut imposer à la RDC de ne pas avoir l'intention d'attaquer. Et par conséquent, on crée ce centre, on va se donner ces renseignements. L'Angola est pour quel enjeu là-bas? Si ce n'est pas parce que peut-être quelques chômeurs existeraient quelque part, ils vont venir avoir du travail là. Vous voyez? Donc c'est un problème d'argent, peut-être qui intéresserait les autres, mais le vrai problème, c'est que on doit tout faire pour sécuriser le Rwanda. Alors tout ce qu'il faut faire, parce que c'est facile, au Congo, on peut attaquer l'Est, mais l'ensemble du Congo ne ressent pas ça tellement. Mais le Rwanda, c'est tout de suite, parce que si cette guerre venait à traverser la frontière et que c'est en plein Rwanda, en tout cas, tous les Rwandais le sentiront de la même manière.
Il faut préciser que lorsque l'Est est attaqué, c'est tout le Congo qui ressent les effets.
Nous ressentons les effets surtout peut-être pour nous qui faisons de l'analyse, mais est-ce que la population elle est en train d'évacuer à ses occupations ici, hein, sans problème?
Merci. Israël Moutala, comment expliquer le fait que 12 pays sont concernés par ces centres conjoints de fusion de renseignement, mais le débat ici c'est entre le Rwanda et la RDC? Ne peut-on pas dépasser ces débats pour finalement parler du mérite de cette initiative?
Impossible.
Pourquoi impossible?
Le Rwanda est le caillou dans la chaussure de la RDC. Et depuis de longues décennies. Il faudrait résoudre définitivement cette question rwandaise. Et comme je le dis ici, cette question ne sera résolue que quand les dirigeants congolais et les dirigeants rwandais regarderont dans la même direction. Pour le moment, chacun regarde dans sa direction. La RDC, pour le moment, veut la paix, veut la stabilité, veut le développement. Le Rwanda ne veut pas encore la stabilité et la paix sans elle, sans son leadership. Tant que le Rwanda ne comprendra pas que la RDC est le leader naturel de la sous-région des Grands Lacs, de l'Afrique centrale et même de l'Afrique, à moyen terme ou à long terme, si elle arrive à comprendre cela, c'est ça que ça va changer. Mais aujourd'hui, au Rwanda, on n'est pas dans cette idée-là. Et même, moi je dis souvent, en réfléchissant, j'ai dit à certains amis que la question rwandaise, même au cas où il y a partition de la RDC, chose que je ne souhaite pas et que j'espère que ça n'arrivera pas, encore soyons intelligents pour que cela n'arrive pas, il faudrait que le leadership rwandais comprenne que la partition de la RDC ne va pas leur profiter. et que eux aussi seront des victimes de cette redéfinition des espaces géographiques au centre de l'Afrique. Tant que ces dirigeants ne comprendront pas cela, ça va capoter. Les autres États, il est plus facile de traiter avec l'Ouganda, il est plus facile de traiter avec l'Angola et même le Congo-Brazzaville, mais avec le Rwanda, ça pose problème à cause de cette collision, comment dirais-je, de vues.
Joseph Makamba, l'on a parlé du conflit Rwanda-RDC. Cette démarche, les centres conjoints des fusions des renseignements, n'est-ce pas une voie déterminante vers la fin des différentes guerres dans cette sous-région? Je pose la question parce que, logiquement, l'on pourrait dire que les objectifs sont atteints que lorsque on aura mis hors d'état de nuire les FDLR, les ADF Nalu, les FNL, la LRA, ainsi que les factions Mai Mai qui sévissent chez nous. Par ces centres-là, n'est-ce pas qu'on va vers la fin de toutes ces guerres qui sévissent dans la sous-région?
Voilà, c'est ça le plus grand problème. Moi, je pense que la première étape dans la démarche de ces centres, ce serait d'abord parvenir à remettre tous les pays en confiance, les pays qui sont engagés dans la structure. Parce que tant que la RDC et le Rwanda ne savent pas émettre sur la même longueur d'onde en ce qui concerne les conflits qui surgissent aux frontières de ces deux pays, ça va toujours créer des problèmes. La RDC va toujours continuer à croire que c'est le Rwanda qui soutient. Le Rwanda va continuer à ne pas croire en ce que la RDC est en train d'affirmer ou de porter comme accusation. C'est déjà un problème. Donc je pense que on peut espérer, en tant que Congo, RDC, que ce centre pourra aider à ce que la paix puisse revenir, mais à une seule condition, que l'on se mette d'accord sur la vraie origine de cette insécurité. Est-ce que réellement ça vient du Rwanda? Est-ce que ça vient du Soudan? Est-ce que ça vient de tel ou tel autre pays? Tant qu'on se sera mis d'accord, je pense que là, le centre pourra être vraiment un centre de refuge pour la République démocratique du Congo, qui est toujours fragilisé. Moi, j'ai peur que ça puisse devenir un centre qui pourra de plus en plus fragiliser la RDC. Parce que si tous les pays sont, ou les autres pays, ou certains des pays sont plus malins que la RDC, il y a un risque que notre pays, étant soucié de voir la paix revenir, donner tous les renseignements, et les autres rester dans leur malignité, ne pas tout donner, ramasser facilement les stratégies sécuritaires de la RDC et fragiliser davantage ce pays qui est vraiment voué à presque une balkanisation avec tout ce qu'on est en train de voir. La guerre qui ne sait pas s'arrêter à l'est du pays, ça fait réfléchir. Pourquoi ça ne fait que revenir chaque fois? Et pourquoi toujours à l'est du pays?
Merci.
Donc on sent qu'il y a un problème au fond qu'il faudra bien jauger pour vraiment aider la RDC pour que ce centre soit vraiment une solution parmi tant d'autres qui ont déjà précédé.
Innocent Kabukala, parce que la méfiance se pose avec acuité, cette démarche pour aboutir n'aurait-elle pas besoin de l'assistance des pays développés, surtout ceux qui ont atteint un niveau important dans les domaines des renseignements?
Ce n'est pas parce que ces pays développés ne se sont pas prononcés que
qu'ils ne sont pas au courant. Moi, je crois que l'initiative est passée par là, parce que vous parlez des experts. Les experts, là, pour la plupart des cas, ce ne sont pas des gens qui viennent dans le pays du tiers-monde. Pour la plupart des cas, c'est des gens qui viennent des pays développés. Et donc, l'initiative a été déjà prise à ce niveau-là. Mais les pays développés, s'il faut qu'ils se prononcent de façon ouverte, peut-être c'est difficile, mais on sait comment on peut se répartir ces pays développés là par rapport à la question de la RDC. On sait pertinemment bien qu'il y a la question, entre guillemets, d'une minorité qu'il faudrait protéger à un niveau donné et d'une majorité qu'il faudrait contre laquelle il faudra jouer pour qu'elle n'arrive pas à avaler cette minorité-là.
Mais cette question des minorités, c'est un débat sans objet parce que les minorités se retrouvent dans tout le pays.
Ici, nous parlons en termes d'État. Parce que y a la question du Rwanda, c'est cette question-là des minorités. Parce qu'en réalité, dans tout ce que nous sommes en train de dire ici, si aujourd'hui le Rwanda est toujours à la une, c'est parce que le Rwanda n'a toujours pas encore réussi à mettre tout le monde d'accord, du moins le peuple rwandais, Hutu et Tutsi. C'est parce qu'il y a toujours ces problèmes Tutsi ou tout là-bas.
Merci.
Que la RDC doit faire les frais.
Merci.
Et c'est qu'il y a une injustice au niveau international. S'il y a une position au niveau international, c'est celle-là. Que le Rwanda puisse s'occuper du Rwanda et la RDC puisse s'occuper de la RDC des Congolais.
Israël Moutala.
J'aimerais dire ici d'abord que s'agissant de ce centre de fusion de renseignement, et que je ne vois pas pourquoi il va prospérer là où
la commission mixte, parce qu'il existe une grande commission mixte RDC-Rwanda. Voyez les résolutions prises par cette commission et voyez le taux d'exécution de ces résolutions et vous serez édifié. Et donc, ce n'est pas parce qu'on a créé un nouveau centre que cela va changer quoi que ce soit. Parce qu'il y a déjà des structures de collaboration étroite entre les deux États, notamment les grandes commissions mixtes qui existent, RDC-Rwanda, RDC-Ouganda, RDC-Angola. Prenez les résolutions de ces grandes commissions et voyez le taux d'exécution de ces résolutions et vous serez édifié sur la non-exécution de ces résolutions. Mais je rappelle ici qu'un pays ne peut être indépendant sans armée efficace et efficiente.
Ça, il y a même un expert, hein, pour ne pas les citer, c'est Monsieur Atundu Lyongo qui a dit pour que ce genre d'initiative aboutisse, il faut que les armées de tous ces États puissent être au même niveau, que ce soit des armées dissuasives.
Tout à fait. Quand je regarde, j'ai suivi hier François Hollande qui a dit, qui rendait hommage à l'armée française, qui dit que non, notre démocratie, notre liberté, nous vous la devons. C'est-à-dire que pour que la France soit indépendante au niveau international, elle impose ses points de vue, il lui a fallu une armée républicaine et François Hollande lui a rendu hommage. Nous avons un travail à faire sur nous-mêmes.
Merci. Notre deuxième thème de ce soir, dans son rapport publié mardi dernier, l'ONG de défense des droits de l'homme Amnesty International plaide pour le renforcement de l'embargo sur les armes à destination de la RDC. Amnesty International appelle à renforcer l'embargo en vigueur sur les armes à destination de la République démocratique du Congo. Dans un rapport publié mardi dernier, cette organisation de défense des droits de l'homme démontre comment la facilité de l'approvisionnement des armes alimente les conflits en République démocratique du Congo. Cette ONG plaide donc pour l'adoption par tout le pays d'un traité sur le commerce des armes lors des négociations prévues aux Nations Unies en juillet prochain. Le point avec Michel Kifindangoy.
Dans son rapport intitulé « Si tu résistes, on te tue », Amnesty International expose comment, je cite, « les déficiences fondamentales des services de sécurité congolais rendent possible l'emploi abusif et le détournement des armes et des munitions à grande échelle ». Fin de citation. Pour l'ONG, cette situation ouvre ainsi la voie à des conflits armés et à des graves violations du droit international humanitaire imputables aux forces armées régulières et aux groupes armés. Au cours des dernières années, souligne le rapport, le gouvernement de la RDC a importé des armes, munitions et équipements connexes. Parmi les principaux fournisseurs d'armes de la RDC, Amnesty International cite l'Afrique du Sud, la Chine, l'Égypte, les États-Unis, la France et l'Ukraine. Mais il arrive fréquemment que des gradés des FRDC vendent des armes à des groupes armés, y compris à ceux qu'ils combattent, souligne le rapport. Amnesty International invite donc les États à suspendre les transferts d'équipements militaires vers la RDC tant que les garanties relatives à la protection des droits fondamentaux ne sont pas mises en œuvre.
En réaction, le gouvernement s'est dit choqué et déçu. Selon le porte-parole du gouvernement, cette ONG affiche une attitude cynique et déconnectée des réalités. D'après le ministre Lambert Mende, on ne peut pas demander de mettre sous embargo une armée nationale qui défend un peuple agressé par un réseau de groupes armés d'un pays voisin clairement identifié. Lambert Mende est joint par Jeff Ngoy.
Nous nous étonnons de l'indifférenciation dont fait montre cette ONG internationale, une sorte d'indifférence qui frôle le cynisme. Nous avons là le peuple du Nord Kivu, le peuple congolais, qui est victime répétée d'agressions de la part de groupes armés soutenus par des réseaux qui fonctionnent dans des pays voisins qui ont été clairement identifiés. Et Amnesty ne dit pas un mot sur les réseaux qui alimentent à partir des pays voisins ces groupes négatifs qui sont en train d'assassiner et de piller. Nous sommes assez surpris, choqués par cette espèce d'indifférence par rapport aux souffrances d'un peuple qui a besoin qu'on vienne à son secours en mettant précisément à la disposition des forces armées gouvernementales des moyens pour défendre le peuple.
Joseph Makamba, je rappelle que vous êtes directeur des programmes de la radio-télévision Malanji à Kananga au Kasaï occidental. Amnesty International plaide pour le renforcement de l'embargo sur les armes à destination de la RDC. Comment vous analysez ces rapports d'Amnesty International?
Ouais, le rapport en soi, c'est un bon rapport parce qu'on sait que l'origine, c'est qui et la force qui déclenche aujourd'hui les différentes rébellions, qui déclenchent la guerre à la RDC, c'est-à-dire des groupuscules des militaires, c'est parce qu'ils sont armés.
Alors je pense que il faut vraiment prendre des décisions, avoir des garde-fous en ce qui concerne la circulation des armes dans un pays comme la RDC qui est fragilisé depuis de longues années par des guerres qui naissent par-ci par-là. C'est vraiment un rapport qui vaut son pesant d'or. Et je ne vois pas pourquoi le gouvernement doit s'acharner sur l'ONG au lieu de chercher à pénétrer ce qui a été réalisé. C'est clair que depuis que la guerre a commencé dans notre pays, le gouvernement a accumulé beaucoup d'armes dans ce pays. Mais il est aussi arrivé que apparemment le gouvernement n'a plus un bon contrôle sur ces armes quant à leur circulation dans le pays. On ne sait pas. Moi, j'ai toute peur que le gouvernement maîtrise les effectifs d'armes qui circulent à travers la RDC. On a appris dernièrement qu'on a découvert une cache de d'autant de tonnes d'armes dans les Fizi ou Massisi, du côté où le général Bosco Ntaganda s'est rébellé. Vous sentez qu'on est allé découvrir ce qu'on avait déjà oublié. C'est pour dire qu'il y a eu un excès d'armes à tel point qu'on ne sait pas si surveiller, contrôler ça, et comme conséquence, ce ne sont que les rébellions qui ne font que l'être. Ici, on sait, on voit comment les armes se vendent entre les agents de sécurité militaires.
Joseph Makamba,
un pistolet à un policier,
Joseph Makamba,
ça va être contrôlé. Vous voyez qu'il y a un problème, il faut vraiment qu'on prenne des dispositions.
Joseph Makamba, allô,
oui.
Votre ligne se détériore, il n'y a pas moyen de bouger un peu, essayez de bouger.
Oui, est-ce que maintenant ça va?
Ne bougez encore.
Ça va?
Non, non, essayez. Ouais. Vous êtes dans une salle?
Non. Je suis d'ailleurs
à côté de... Ça ne va toujours pas. La réalisation vous appelle pour... on va essayer. Si vous avez un autre numéro, vous communiquez ça à la réalisation. Comme ça, on vous rappelle.
D'accord.
Ok. Innocent Kaboukala, je rappelle que vous êtes coordonnateur de Global Télévision. C'est une télévision qui émet depuis Kinshasa. Est-ce que vous comprenez la position de cette ONG Amnesty International?
Oui, je crois que je la comprends très bien. Une ONG qui œuvre depuis longtemps, qui a fait ses preuves dans le domaine, et donc je crois qu'elle ne peut pas donner des avis par hasard. Je comprends bien la position de notre gouvernement, notamment par le ministre Lambert Mende. La position est tout à fait légitime, mais il faudrait qu'il reconnaisse aussi, humilité oblige, que ce n'est toujours pas vrai que on a le contrôle de tous nos effectifs et que tout ce qu'on met à la disposition de notre armée arrive réellement à destination. Je crois qu'il est parmi les rares ministres qui sont encore là en place. Il était là alors que le premier ministre Mouzito venait de prendre ses fonctions, et je crois qu'il va se souvenir que le premier ministre Mouzito avait découvert les objets militaires en plein magasin lorsqu'il s'est rendu à l'Est. Donc ce sont des éléments qui existent. Ça, c'est le premier ministre, c'était la voix officielle, il avait dit ça. Donc je crois que cette ONG, en émettant ce point de vue, a tout à fait raison. Mais nous ne le disons pas parce que nous n'aimons pas nos frères, nous sommes aussi congolais, nous voulons bien sûr que le gouvernement puisse s'occuper de cette population de l'Est qui n'a fait que trop souffrir depuis trop longtemps et qui continue encore à souffrir dans sa chair. Et les peines, chaque fois qu'il y a des douleurs au niveau de l'Est, nous nous ressentons aussi. Donc nous aimons bien cette population, mais en revanche, au niveau de cette ONG, il faudrait aussi, c'est vrai, quand on émet le point de vue, on ne va pas interdire à cette ONG de mettre ce point de vue, mais il faut retenir une chose. Il est de principe que là où le péché abonde, la grâce surabonde.
Ça veut dire quoi?
Ça veut dire tout simplement que il y a, pendant qu'on interdit, pendant qu'on demande cette interdiction, je crois que ceux qui fournissent les armes là, ils entendent au même moment que nous-mêmes ici. Mais est-ce que prennent-ils aussi des dispositions pour que ces points de vue, lorsqu'on les émet, arrive à freiner cette hémorragie, cette circulation des armes, qu'il n'y ait pas des gens qui ne sont pas autorisés, des groupes qui ne sont pas officiels, qui viennent par exemple acheter ces armes-là. Est-ce qu'on les fait? Généralement, c'est quand on interdit qu'on remarque que l'activité devient de plus en plus intense. Parce que, vous savez, pourquoi tous ces gens-là choisissent sur la partie Est? Parce qu'il y a les minéraux, et dans les minéraux, il y a l'argent, et l'argent intéresse tout le monde. Même le vendeur, même s'il a la mort dans l'âme, il s'est dit que cette arme-là, en la vendant, ça va tuer des gens. Mais
qu'est-ce que vous voulez?
Isaac Moutala, je rappelle que vous êtes journaliste à Géopolis, c'est un magazine économique des activités extractives. En suivant les analyses des uns et des autres, on se rend compte que ce qui est remis en cause ici, c'est les mécanismes de contrôle. Est-ce que parce que les mécanismes de contrôle ne fonctionnent pas comme il se doit, qu'il faut aller jusqu'à demander qu'on puisse renforcer l'embargo sur les armes à destination d'un pays qui fait face depuis environ 20 ans à des conflits armés?
Non, je suis parfaitement d'accord avec le gouvernement congolais. Sur cette question, il est hors de question que la RDC soit mis sous embargo en tant qu'État. Je rappelle d'abord que l'embargo qui assure les armes au Congo ne concerne pas le gouvernement congolais. C'était un embargo qui a été pris en 2003 et qui ne concernait que les armes à destination de groupes rebelles dans l'est du pays. Cette fois-ci, Amnesty International aimerait qu'on étende cet embargo sur le gouvernement, qu'on renforce cet embargo parce que, selon lui, le gouvernement n'a pas su bien gérer son stock d'armes. C'est ce qui laisse entrevoir sa déclaration. Quand Amnesty dit les déficiences fondamentales de services de sécurité congolais rendent possible l'emploi abusif et les détournements des armes et munitions de guerre. Ça veut dire que le gouvernement, quand il achète les armes, ses généraux se lancent dans des trafics de tous ordres, selon Amnesty, c'est que le rapport. Et donc, pour cela, il faut qu'on renforce cet embargo, qu'on l'étende sur le gouvernement congolais. Non. Amnesty aurait dit non, que le gouvernement fasse attention pour que ses généraux ne se lance pas dans le trafic des armes avec le groupe rebelle, ce qui va alimenter la guerre et qui va créer encore de la sécurité. Mais de là, aller jusqu'à demander à renforcer l'embargo sur le gouvernement congolais, c'est absurde. D'autant plus que Amnesty aurait dû d'abord se poser la question de savoir est-ce que l'embargo qui avait été pris en 2003 sur les groupes armés et qui avait été renouvelé en 2010 sur les mêmes groupes armés, est-ce qu'il avait été efficace? Est-ce que la filière d'approvisionnement d'armes par l'Est, parce que le gouvernement s'approvisionne, lui, par l'Ouest, par le port de Matadi et tout ça, mais est-ce que par l'Est, la filière Est, avec tous les pays voisins, a-t-elle été maîtrisée? C'est ça la grande question. Qu'on fasse d'abord l'autopsie de cette mesure prise en 2003 concernant les groupes rebelles à l'Est avant de détendre.
Innocent Kabugala, les experts pensent que ce qu'il faut faire, c'est plutôt de renforcer les mécanismes de traçabilité de ces armes afin que celles-ci ne se retrouvent pas du côté de la rébellion ou qu'elles ne soient pas utilisées contre les populations civiles. Renforcer les mécanismes de traçabilité des armes.
Je suis tout à fait d'accord avec ça. Hein? Ça, c'est une bonne analyse parce que c'est ce que nous disons ici. À partir du moment où on sait que telle arme est achetée à tel endroit pour telle destination et que c'est contrôlé et qu'il n'y a pas d'inquiétude sur une éventualité de détournement, donc ça arrange. Mais l'autre problème, c'est nous-mêmes aussi en tant que pays, en tant que tel. Pourquoi on ne peut pas exiger une organisation à notre niveau? Parce que c'est comme si tout se passait normalement au sein de notre pays. C'est comme si on n'a jamais de problème au niveau de la... Parce que quand on parle des gens qui... des officiers qui quittent l'armée légalement établie...
Qui font défection.
Ils font défection. Alors, est-ce que c'est parce que ils le font pour leur propre gré ou qu'est-ce que... Non, il doit y avoir un problème qu'on doit chercher à régler. Nous, en tant que pays, nous avons besoin de nous organiser. C'est très important. L'organisation, je crois que si nous étions un pays avec une armée organisée, je ne pense pas que des problèmes du genre se poseraient en ces termes-là.
Israël Moutala, quelle solution proposez-vous? Comment peut-on concilier l'impératif pour une armée de pouvoir se battre contre une panoplie de rébellions et la nécessité d'épargner les populations civiles?
C'est difficile. La paix, comme je le dis souvent, est une denrée rare. Il faut s'épargner les guerres, il faut arrêter la prolifération des armes de guerre et tout cela passe par là. Mais ça passe par la restructuration de l'armée tout entière. Nous devons avoir une armée dissuasive, capable de protéger notre population et capable justement d'inspirer la peur, d'inspirer même la terreur à nos voisins. C'est cette dissuasion-là, on ne l'a pas encore créée. Quant au centre de parce qu'on en a dit un mot ici, je n'en crois pas un seul instant. Renforcer la traçabilité. Le M23, on a tout tracé. D'où viennent les munitions, d'où viennent les hommes, où est-ce qu'ils ont été recrutés. Mais ils sont là, ça n'a pas servi à la paix. bien que nous sachions d'où est-ce qu'ils viennent, ça n'a pas servi à la paix.
Merci, c'est la fin de cette émission. Bob Landou était à la technique, Kelly Tout à la réalisation assistée de Samuel Kachak sous la supervision de Félix Kipelamondo. Devant ce micro, Guy Maté, merci et bonne suite de programme sur Radio Capi.